Voilà, ce matin, pour préparer mon message, j'ai fait un petit tour sur YouTube pour découvrir un très grand théologien qui s'appelle Julien Clerc. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Alléluia. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Et donc ça, c'est le titre de mon message ce matin. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Parce qu'on ne l'entend pas assez dans l'Église. Depuis 2000 ans, on n'entend pas assez cette phrase dans l'Église. L'Église a été assez, comment je peux dire, masculine. Gérée par des hommes, pour des hommes. Et souvent, les femmes n'ont pas eu leur place. On a même fait du mal aux femmes dans toute l'histoire de l'Église. Mais ce matin, femme, je vous aime. Et ce n'est pas juste moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Et Dieu l'a toujours dit. Il n'a jamais changé de parole. Il a toujours dit, femme, je vous aime. Et donc, allez, je vais vous donner 7 versets bibliques pour prouver tout cela. D'accord? Et donc, pour ceux qui suivent, c'est bien. Pour ceux qui ne suivent pas, ce n'est pas grave. Vous allez écouter. Vous allez avoir 7 versets bibliques qui proclament, femme, je vous aime. Et donc, on commence dans Exode. Exode 34 et verset 6. 34, verset 6 en Exode. Et donc, c'est un moment où Dieu se révèle à Moïse. C'est un moment où il donne une révélation de son caractère, de son être. Donc, c'est un moment important, très important. Ce Dieu qui va dire, vous allez voir ma face, vous allez voir ma personne, vous allez voir ma personnalité. Je suis comment? Et donc, voilà, verset 6. L'Éternel passa devant Moïse, devant lui, en proclamant « Yahweh, Yahweh, oh, éternel, éternel, Dieu !» Vous savez, le premier mot qu'il utilise pour se décrire, c'est le mot « compatissant ». Compatissant. C'est là où on a le mot « compassion ». Mais vous savez, en hébreu, ce mot a un sens particulier. Rechem, rahem, rechem. Vous savez, ce mot rechem, c'est le sein maternel d'une femme. Et donc, littéralement en hébreu, Dieu dit, je suis le sein maternel. Je suis une matrice. Femme, je vous aime. Parce que il y a une partie féminine dans l'identité même de Dieu. Et moi, je me réjouis. Je me réjouis que quand Dieu il se dévoile à Moïse, le premier mot qu'il utilise n'est pas « voilà, je suis un grand tout-puissant », même s'il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Mais même El Shaddai, en hébreu, ça veut dire « celui » qui est couvert de saints, hein, littéralement. C'est incroyable, cette partie féminine de Dieu. C'est dans sa personnalité, c'est dans son être. On ne peut pas dire, oh, Dieu c'est un homme. Même s'il est fortement Père, notre Père qui est au ciel, on ne peut pas limiter Dieu à dire, Dieu est un homme. Dieu, il a une partie féminine dans son identité. C'est un bon truc à garder dans nos cœurs. Parce que quelquefois, notre idée de Dieu est 100% pour les hommes. Mais il y a une place pour la femme. Dieu, il a une partie féminine dans son identité. Allez, deuxième parole. On va encore au commencement. Genèse 1, 27. Genèse chapitre 1, 27. Hein, c'est notre Dieu qui est le Créateur. Notre Dieu qui est le Créateur. Et donc nous lisons au tout début de la Bible, dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et maintenant, très important, homme et femme, il les créa. Homme et femme, il les créa. Il y a un film, non, de Roger Vadim, Dieu créa la femme. Brigitte, viens à mon secours. Et Dieu créa la femme. Alléluia, je suis tellement content que Dieu a créé la femme. Dieu, mais il a créé la femme à son image. C'est très important encore, parce que souvent, dans beaucoup de cultures, et dans beaucoup de pays, la femme, elle est maltraitée. Et quand on maltraite les femmes, on maltraite l'image de Dieu. La femme est créée à l'image de Dieu. Quelle beauté! Quelle beauté! Je vois les femmes ici ce matin. Quelle beauté! Créée à l'image de Dieu. Non, mais c'est cette beauté intérieure. Et il y a aussi cette beauté intérieure qui rayonne sur l'extérieur. C'est ça la vraie beauté. Et après, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit. C'est le premier commandement de la Bible. D'accord. Quelquefois, on a peur de Dieu. On dit Dieu, il est ringard, il est méchant, il nous donne toujours des contraintes. Mais vous savez, le premier commandement que Dieu donne à l'humanité, je vais vous le donner, ça va vous étonner. Vous pouvez le remplir ce soir si vous voulez, si vous êtes marié. Soyez féconds. Non, mais c'est vrai, vous ne pouvez pas me contredire. Faites l'amour. C'est ça ce qu'il dit. Soyez féconds et multipliez-vous. Oh, c'est un bon commandement. Allez. C'est un bon commandement, ça. Alléluia. Bien sûr, il y a une partie. Je peux spiritualiser ça, apporter du fruit pour le Seigneur. Mais là, ce n'était pas spiritualisé. Hein? Soyez féconds. Merci. Parce que quelquefois, si vous posez la question aux gens, qu'est-ce que c'est le premier commandement de Dieu? Oh, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Mais le premier commandement, c'est soyez féconds. Faites l'amour, pas la guerre. Un baba cool des années 1960. Voilà. Et donc, Dieu, il a créé, mais il a donné aussi à la femme, avec l'homme, ce mandat. C'est très difficile pour l'homme d'être fécond tout seul. Multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Soumettez-la. Et donc, la femme, elle est la création de Dieu. Et elle partage le mandat de Dieu pour remplir la terre avec de belles choses. Allez, troisième verset, hein, toujours en Genèse, 3:20. Et là, je découvre une de mes femmes préférées. J'ai beaucoup de femmes dans ma vie, hein, surtout les femmes de la Bible. Beaucoup de femmes dans ma vie. Et il y a quelques mois, je me suis trouvé à Cardiff. Et je suis allé voir le musée national de Cardiff. Il y avait beaucoup de sculptures. Et là, je suis entré dans une salle et il y avait les sculptures de Rodin. Et il y avait le baiser de Rodin, c'est magnifique. Et après, il y avait une sculpture d'Ève. Ève, dans toute sa gloire. Et elle avait ma taille. Et parce que j'étais tout seul, il n'y avait personne. J'ai mis ma main sur ça. J'ai dit, oh, mais je t'aime, Ève. Merci, Ève. Merci, Ève. Et vous savez pourquoi j'aime Ève? C'est parce que elle s'appelle pas vraiment Ève. Parce que Ève, c'est le nom que nous donnons. Hein? C'est le nom latin, grec et tout le reste. Mais Ève en hébreu, elle s'appelle Hava. Et en Genèse 3:20, nous voyons qu'elle reçoit ce nom glorieux. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, d'Ava. Et vous savez, Ava, c'est d'une racine hébraïque, Haya. Et ça veut dire la vie, ou même la résurrection. La vie! Et Haya est la racine de Hava, Ève, Hava, et ça veut dire la mère des vivants. Wow! Pas mal. Et donc, il a donné le nom de Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Donc c'est bien. Je vous encourage à dire merci à Ève de temps en temps. Merci Ève, tu es ma maman. Tu es la mère. Quel honneur. Moi j'aime beaucoup Ève. C'est pour ça que je voulais lui donner un petit bisou. C'était un peu froid, mais ça me faisait plaisir. Donc déjà là, on a Ève. Mais on va faire un grand saut maintenant dans le Nouveau Testament. Et on va trouver une autre maman, Marie. Marie, on ne peut pas parler femme, je vous aime, si on ne parle pas de Marie. Et donc Marie, Luc 1, 30. Et bon, le contexte, c'est Marie, elle est là. Elle s'appelle Myriam, son vrai nom. Myriam. Et elle est là, elle est une femme très jeune, une croyante, une femme fidèle. Et si Ève était la mère de tous les vivants, Marie était la mère du vivant. Elle commence une nouvelle race des hommes et de femmes qui auront la vie. Pas juste une vie biologique, parce que cette vie biologique, ça va terminer un jour. Mais une vie spirituelle qui va perdurer jusqu'à l'éternité. Une vie spirituelle qui rattrape ce qui était perdu dans le jardin par le péché de l'homme. Et donc, Marie est celle qui enfante celui qui va racheter l'humanité, qui va redonner la vie. Parce que même si elle était la mère de tous les vivants, Ève, elle était aussi la mère de tous les mourants. Et si nous voulons vaincre la mort, il faut avoir la vie en Jésus-Christ. Et donc Marie, elle est magnifique ici. Et elle reçoit une parole de l'ange, verset 30, Luc 1, 30. Et c'est ce verset que je laisse avec vous ce matin. Si vous oubliez tout le reste de mon message, que j'espère pas, au moins gardez ce verset. Je dis, moi je suis venu dimanche, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Et j'aime bien dire, mais Dieu vous dit ça dimanche. Parce qu'il y a les gens qui disent, oh mais Dieu ne me parle jamais. Si, il vous parle. J'ai prié pendant deux ou trois jours, là, toute la semaine même, pour ce message. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Alors là, j'ai une parole que Dieu, il veut vous dire ce matin. Et c'est la parole qu'il a dit à Marie. Et c'est verset 30, dans Luc 1, il dit à Marie, sois sans crainte. Et il dit, sois sans crainte, Marie. Vous pouvez mettre votre nom là. Sois sans crainte, Sylviane. Sois sans crainte, Odile. Sois sans crainte, Aurélie. Sois sans crainte, Christine. Sois sans crainte, Robert. Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès du Seigneur. Tu as trouvé grâce. La grâce, c'est le cadeau de la vie. C'est le cadeau du pardon. C'est le cadeau de la vie éternelle. C'est le cadeau de l'amour que tu trouves dans une personne qui s'appelle Jésus. Est-ce que tu as trouvé grâce? Et c'est une grâce parce que ce n'est pas mérité. Vous ne pouvez rien faire pour ça, sauf recevoir, sauf dire « je reçois ce cadeau ce matin ». Est-ce que tu as trouvé grâce ce matin auprès du Seigneur? Ou est-ce que vous êtes toujours sous la loi dans cette vie d'esclavage, soumis à toutes sortes de pressions, de difficultés? Laisse ce matin la grâce du Seigneur te libérer. Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et Marie était la première personne sur la terre qui a trouvé cette grâce auprès du Seigneur. Elle a trouvé vraiment d'une manière exceptionnelle, parce que cette grâce est née en elle. Cette grâce a été forgée en elle. Mais nous aussi, on fait partie de cette nouvelle race des vivants en Jésus-Christ. On n'est pas enfanté par Marie, on est enfanté par Jésus-Christ dans cette vie. Mais elle était celle qui avait trouvé grâce auprès du Seigneur. Et nous aussi, ce matin, quand nous prenons ce repas, c'est le repas de grâce, l'Eucharistie, le repas de grâce. Ça veut dire, j'ai trouvé grâce auprès de toi, Seigneur. J'ai trouvé ton corps qui a été brisé pour moi. J'ai trouvé ton sang qui me libère de mes péchés. J'ai trouvé ta vie ressuscitée, comme Jacques a dit. Tout est accompli. Jésus-Christ est ressuscité et j'y crois. Et je reçois cette grâce qui me donne une vie nouvelle. Alléluia. Et donc, merci Marie, merci Myriam d'avoir été là, disponible pour enfanter Jésus-Christ. Femme, je vous aime. Allez, on va plus loin, parce que il y a encore trois femmes exceptionnelles. Jean, verset 4. Jean, chapitre 4, l'évangile de Jean. Jean, chapitre 4. Jean, l'évangile de Jean. Et chapitre 4, c'est l'histoire de la Samaritaine. On n'a pas un nom pour elle. Elle s'appelle juste la Samaritaine. La Samaritaine. Ça veut dire qu'elle habitait en Samarie. Si moi je me rappelle, j'habite à Thumerie et donc je suis un Thumérisien. Donc la Samaritaine. C'est un magasin à Paris aussi, non? Et donc là, cette femme, elle est magnifique. C'est une femme qui est une femme ordinaire, qui a eu des problèmes dans sa vie. C'est une femme qui a reçu la grâce. Alléluia! Et si elle avait croisé un pharisien, elle n'aurait pas vécu une belle journée. Parce que c'est une femme qui avait une mauvaise réputation, elle avait eu plusieurs maris et tout ça. Elle aurait été jugée par la religion. Vous savez, la religion vous juge toujours. Il y a toujours un doigt. Mais Jésus n'est pas comme ça. Parce que là, c'est la victoire de la grâce avec Jésus. C'est la victoire de l'amour, c'est la victoire du pardon. Et là, il n'y a pas un droit qui accuse. Il y a deux bras qui vous embrassent, qui vous accueillent. Ça n'excuse pas le péché. Mais ça veut dire, vous avez besoin de la grâce pour vaincre ce péché. Vous avez besoin de l'amour. Ce n'est pas ma condamnation qui va vous aider. Est-ce que la condamnation vous aide à mieux vivre? Est-ce que l'amour de Jésus vous aide à mieux vivre? Oui. Est-ce que c'est en tapant vos enfants chaque nuit avec un grand bâton que vous allez les améliorer? Je ne pense pas et je ne le déconseille pas. Je le déconseille vraiment. Mais en les aimant profondément, en disant, même si vous faites les erreurs, vous pouvez toujours revenir à la maison parce que je vous aime. J'ai un amour inconditionnel pour vous. Vous savez, si vous dites ça, ils vont arrêter dans leur temps de faire des bêtises. Ce n'est pas la punition qui nous corrige. C'est l'amour et la grâce qui nous corrige et qui est très efficace. Et donc, Dieu, il a corrigé la vie de cette Samaritaine avec son amour. Et il a parlé de l'eau vive. Il a dit, je suis l'eau vive. Et après, cette femme, elle est transformée par cette rencontre avec Jésus. Et elle devient la première évangéliste. Alléluia. C'est pas un homme. La première évangéliste envoyée en mission dans une ville où il parlait sa langue, elle était connue. Oh, on connaît cette femme-là. Mais elle était une femme transformée avec un témoignage. Et elle est devenue la première évangéliste. Donc on va voir, je vais vous donner verset 28. D'accord ? Jean chapitre 4, verset 28. La femme laissa donc sa cruche et s'en alla dans la ville. Voilà, elle est allée dans la ville. Et dit aux gens, venez voir. Oh, qu'on a un témoignage comme ça. Venez voir cet homme. Venez voir Jésus. Venez voir. Moi, j'aime bien la Samaritaine. Il y avait un témoignage. Évangéliste, venez voir. Venez voir un homme. Le Christ. Le Christ. Magnifique, un homme qui m'a tout dit. Le Christ, le Messie. Elle a annoncé l'arrivée du Messie. Et après, vous pouvez retrouver en 39 aussi, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme. Parole de la femme. Parole de la femme. Parce que quelquefois l'Église a passé 2000 ans à faire taire la femme. Il y a même les dénominations qui interdisent aux femmes de parler. C'est une confusion culturelle, même si je respecte tous mes frères et sœurs, mais quand vous étudiez le sujet, c'est une confusion culturelle de dire ça. Quelle ânerie de dire qu'une femme ne peut pas parler, comme si sa parole est dévalorisée. Je vais vous dire, votre parole inspirée en Christ n'est jamais dévalorisée. Vos paroles doivent être entendues, vos prophéties, vos paroles de grâce doivent être entendues, comme cette femme-là. Ils ont cru, tout un village a cru à cause de la parole de la femme. Alléluia. Merci pour la parole de la Samaritaine. Allez, on va voir encore une personne. Mais je vais faire un peu de publicité pour des hommes. Mais c'est une mauvaise publicité. Non, c'est une bonne publicité. La mauvaise publicité, c'est plus tard. Vous connaissez tous Matthieu 16:16. Tu vois, c'est la grande proclamation, la grande déclaration apostolique de Pierre. Quand on dit que l'Église a été fondée. Et pour nous, des protestants, on dit que l'Église n'est pas fondée sur la personne de Pierre, on dit que c'est fondée sur sa déclaration de foi. Et donc, quand nous lisons dans Matthieu 16:16, c'est Jésus, il pose la question, « Simon, il n'y a que des hommes dans l'équipe là, Simon, qui dites-vous que je suis ?» Et après verset 16, en Matthieu 16, « Simon-Pierre répondit, c'est le moment de gloire. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Et après Jésus, il dit, voilà, il reprit la parole, il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et donc voilà, révélation céleste pour établir le premier pape, un homme. Voilà, bon, on est content avec ça, on a 2000 ans d'histoire après. Pape, même pape, ça veut dire papa. Mais j'aimerais bien juste ajouter quelque chose. Et j'aimerais qu'on regarde dans Jean chapitre 11. Et au lieu de voir un papa, on va voir un maman. On va pas voir le pape, on va voir quelqu'un qui a la même proclamation apostolique que Pierre. Je vais voir la première femme qui a une vraie proclamation apostolique. On aurait pu fonder l'Église sur cette proclamation. Mais bon, elle était une femme. Et donc, à l'époque, ça ne se faisait pas. Mais, devant Dieu, regardons bien qu'est-ce que cette femme dit. C'est la sœur de Marie qui s'appelle Marthe, femme de cuisine. Alléluia. Ça serait bien si l'Église était fondée au lieu de tous ces intellectuels. Que ça soit vraiment fondé sur une femme de cuisine, une femme d'action. Tu vois? Mais bon, je ne vais pas changer l'histoire. Et donc, Jean 11, 25. Jean 11, 25, et tu as la proclamation de Jésus, « Je suis la résurrection et la vie ». Et après, j'aimerais que vous voyez verset 27, c'est la réponse de Marthe. Jean 11, 27. Elle lui dit, c'est une femme, d'accord, Marthe, ordinaire. Quand c'est Pierre, oh, on a toutes les lumières qui flashent, mais bon, c'est une femme, elle est là. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Bravo, Marthe! Mais là, on a étouffé cette proclamation apostolique d'une femme. On l'a étouffé. Je suis sûr que vous ne passez pas des heures et des heures à dire « Bravo, Marthe !» Elle a fait la même proclamation de Pierre. Mais elle a fait la même proclamation de Pierre. « Bravo, Marthe !» Et donc là, je vais créer une pétition pour tous ceux qui veulent que Marthe soit le pape plutôt que Pierre. On aurait évité beaucoup de guerres dans l'histoire, mais bon, ça c'est pour demain. Et il ne faut pas que la Fédération protestante de France entende ça, sinon on sera évacué, mais bon. Mais je veux, je n'enseigne pas des doctrines, mais je veux qu'on change de paradigme, parce que notre histoire ecclésiale est trop dominée par cette non-existence des femmes. Et donc voilà, Marthe, bravo Marthe, c'est la femme qui a la première déclaration apostolique, et c'est une femme de cuisine. Et Jésus aime beaucoup les femmes de cuisine. Tu vois, Marie n'a pas cette déclaration. Là, c'est bien ça, parce qu'on voit Marie toute spirituelle aux pieds de Jésus, tout ça. Mais c'est Marthe qui a la révélation. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Allez, on va un peu plus loin, parce que j'ai gardé le meilleur vin pour la fin. Ah, maintenant, il faut... Sois sans crainte, car tu as reçu une grâce. Et Dieu est toujours celui... Tu ne peux pas voir la vie de Jésus sans être étonné par la grâce. Il y a une explosion de grâce. Non, moi, préparez-vous pour une explosion de grâce, d'accord? Parce que si vous regardez Jean 20, toujours l'évangile de Jean, chapitre 20, et versets 17 à 18. Et donc l'histoire, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et vous savez, les hommes n'étaient pas très glorieux dans les derniers jours de Jésus. Tu vois, il n'y a personne qui le défend, il fuit. Et la seule personne, il faut lire à Pâques, hein, les derniers jours de Jésus, les dernières heures de Jésus. Et la seule personne qui le défend, tu ne trouves pas ses disciples qui le défendent. La seule personne qui le défend, c'est ce brigand repenti sur la croix. Il a dit, lui, il n'a rien fait de mal. Il y a tous les autres qui crachent sur lui, qui font toutes sortes d'insultes, et lui, le brigand. Il y a encore un message de grâce là. Lui, le brigand, il est l'avocat de Jésus. Jésus, il n'a pas choisi l'avocat le plus cher. Son avocat, c'était un brigand. Jésus, il choisit même les brigands pour être son avocat. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Et après, tu sais, les hommes, ils étaient cachés quelque part. Il n'y avait que trois femmes qui sont allées au tombeau pour mettre les aromates sur le corps de Jésus. Les femmes pratiquent encore, vous savez, voilà, pratiquent pour l'embaumer. Ils sont allés au tombeau. Et après, ils trouvent le tombeau vide. Ils voient des anges et tout ça. Et il y a plusieurs histoires de ça à la fin des évangiles. Mais moi, je vais vous donner la fin de Jean. Mais vous pouvez trouver des choses très intéressantes aussi en Matthieu, surtout, et Marc. Et donc, Marie-Madeleine est là. Elle voit un ange. Et l'ange lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Après, elle voit un homme et pense, c'est le jardinier. Et moi, j'aime bien ça aussi. Que Jésus ressuscité se fait passer comme un jardinier. Tu sais, si moi j'étais ressuscité, j'aurais été peut-être comme un roi avec une couronne. Voilà, je suis ressuscité, tu vois. J'aurais été habillé comme sur The Voice, tu vois, chanté devant tout le monde. Mais un jardinier, le ressuscité se déguise en jardinier. Alléluia. Et là, il ne se trouve pas dans les palais, il est dans ce jardin. Et Marie-Madeleine, cette ancienne femme de joie. Tu vois, qui avait été dans toute sa vie abusée, abusée par les hommes, abusée, endurcie, ridiculisée, mais libérée en Jésus. Elle aimait Jésus. Elle aimait Jésus. Et après, Jésus, il apparaît devant elle et il dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Tu vois, c'est une femme qui cherche son bien-aimé. C'est une femme qui cherche Jésus. « Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, est-ce que c'est toi qui l'as emporté ?» Jésus, il a dû rire. Là. J'ai kidnappé moi-même. Et il dit, « Dis-moi où tu l'as mis. » Et après, Jésus lui dit, et c'est un moment d'intimité. C'est un moment où, vous savez, dans les films, où il y a le moment de romance exceptionnel, à la fin de l'histoire, quand ils ont traversé les déserts, quand c'est dur, et finalement, « Ah, il est là, mon bien-aimé !» Et la musique, il dit, « Chérie !» Et Jésus dit ça, il dit, « Marie !» Il prononce son nom, « Marie !» Ah, il faut entendre Jésus comme ça. Quand il prononce ton nom, il dit, « Voilà, Sylviane, Huguette !» C'est, il y a un mot d'amour. Et c'est ça, être vraiment chrétien, c'est d'entendre les mots d'intimité de Jésus, de recevoir ce billet doux de la Bible. Pas d'être lapidé par la loi à chaque fois, condamné, mais d'entrer en intimité avec la Bible. Marie, et après elle se retourna, le piano, la musique, Rabouni, Rabouni, mon maître. Et elle a cette révélation. Elle est la première à voir Jésus ressuscité. Et après, comme une bonne femme du Moyen-Orient, là, il dit, non, mais ne me touche pas. Mais elle le touche, hein, elle, surtout ses chevilles. On voit ça en Matthieu. Et je dirais, cette chair de ressuscité, cette chair glorifiée, n'avait pas peur d'être en contact avec la chair d'une ancienne prostituée. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Jésus n'a pas peur d'être en contact avec toi. Parce qu'il t'a gracié par son sang. Il faut recevoir le sang. Parce que Jésus est pur. Mais tu vois la transformation. C'était cette femme qui a touché dans l'intimité profonde le corps ressuscité de Jésus. Et Jésus dit, oh mais, allez, ne me touche pas, allez, lâche-moi. Tu ne peux pas me garder pour toi seul. Lâche-moi. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais après, il lui donne un mandat. Vous savez, on connaît tous le grand mandat que Jésus donne à ces 12 hommes sur la montagne, les hommes qui sont là, dans leur incrédulité énorme. C'est terrible de dire la fin de Marc, la fin de Matthieu, de voir que les hommes ne croient pas. Ils ne croient pas toutes les révélations. Il n'y a que des femmes qui ont cru tout de suite. Et là, dans leur endurcissement, ils ont besoin d'être corrigés par Jésus. Et après, Jésus, il les envoie. Il y a les fêtes de toutes les nations, les disciples. Mais avant l'envoi de ces hommes, il y avait l'envoi de Marie-Madeleine. Elle est la première missionnaire. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Jésus là, en Jean 20, verset 17. Mais va vers mes frères. Elle reçoit ce mandat missionnaire. Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Alléluia! Merci Marie-Madeleine. Première envoyée dans le monde pour proclamer la résurrection. C'est une femme qui est le premier témoin de la résurrection. Femme, je vous aime. Et vous savez, je vais vous parler d'une grande omission maintenant. Une grande omission. Vous n'avez qu'à voir 1 Corinthiens 15. Pauvre Paul, c'est un homme qui écrit ses lettres. C'est un homme qui écrit l'histoire. Les hommes ont écrit l'histoire. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 6, vous avez peut-être une des plus grandes omissions de la Bible. Vous allez être choqués, hein? Mais je ne mets pas en question la Bible, mais je constate juste qu'il y a une omission culturelle et sociale. Une grande omission culturelle et sociale, parce qu'il parle de la résurrection, Saint Paul ici. Et il dit, verset 5, il parle que Christ, au verset 4, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Bravo Paul, tu as raison, j'y crois. Il a été vu par... Ah, moi je m'attends à Marie-Madeleine. Mais c'est évident, tous les évangiles parlent que Jésus a été vu premièrement par Marie-Madeleine. Et qu'est-ce que nous lisons ici? Il a été vu par Céphas, Pierre. Hein, d'accord. D'accord, il a été vu. Ah, d'accord, mais peut-être il va la marquer deuxièmement, parce que quand même... Puis, d'accord, parce qu'il y a aussi dans l'ordre, puis... Par les 12, oh, les 12 hommes, ah, magnifique. Ensuite, il était vu par plus de 500 frères. Oh, pardon. Pardon. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui, mais c'est pas juste. Non, mais ça va. Oui, d'accord. Mais bon, il y a les styles. Mais... c'est pas que je mets en question toutes ces belles paroles de Paul. Mais on voit là, je veux utiliser ça pour signaler une omission. Une omission qui est sans doute due à la culture, parce que les femmes n'avaient pas leur parole à l'époque, on ne comptait pas leur témoignage. Mais est-ce que c'est pour autant que la Bible doit être tellement conforme à ça et que ça doit perdurer depuis 2000 ans? Cette omission de la femme dans l'Église. Et moi, je dis non. Il n'y a pas que cette omission doit cesser. Parce que Jésus-Christ aime les femmes. Et on doit honorer des femmes. On doit voir même théologiquement combien les femmes sont honorées, combien elles ont leur place. Et dans l'Église, que les femmes aient leur place. Et donc, au lieu de la grande omission, qu'on ait la grande affirmation. La grande affirmation. Et pour terminer, je vais juste vous donner un verset de Pierre. Et donc là, merci Marie-Madeleine. Merci Marie-Madeleine. Et donc dans 1 Pierre 4, je pense, non, 3-7. C'est le dernier verset. 1 Pierre 3-7. Encore, c'est Pierre qui parle des femmes, bien sûr dans son contexte culturel aussi. Mais là, il dit, les dernières parties de verset 7, en parlant des femmes, honorez-les. Ah, merci Pierre. Honorez-les comme co-héritières. Co-héritières, égalité. Co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Et la misogynie fait obstacle à nos prières. Et la misogynie établie quelquefois depuis 2000 ans dans l'Église fait obstacle à l'efficacité de ces prières. Et donc quand nous honorons les femmes, nous aurons une vie de prière plus puissante. Alléluia. Alléluia. Libérons la victoire. Bien sûr, merci pour les hommes. Mais je veux honorer les femmes aujourd'hui. Femmes, je vous aime. Et après, pour terminer avec notre théologien, Monsieur Leclerc, je n'en connais que de fragiles. C'est joli. Je n'en connais que de fragile, parce que la femme, à cause de sa compassion, à cause de cette partie amour intime, elle a besoin de beaucoup plus d'honneur, beaucoup plus d'affirmation. Je n'en connais que de fragile. Mais il y a une fragilité dans le cœur de Dieu. et dans l'être de Dieu aussi. Et cette fragilité, c'est aussi la grande force de l'amour. Et donc, merci Seigneur. Merci pour Hava. Merci pour Marie. Merci pour la femme samaritaine. Merci pour Marthe, femme de cuisine, mais avec une proclamation apostolique. Merci pour Marie Madeleine, Seigneur. Et merci pour les femmes dans notre Église, Seigneur. Merci pour les femmes qui sont nos femmes, nos épouses. Merci, Seigneur. Merci. Femmes, je vous aime. Femmes, je vous aime. Et je termine avec peut-être cette prière ensemble, cette proclamation de Luc 1. Parce que tout ça, c'est par la grâce. Tout ça, c'est par la grâce. Et donc, peut-être je peux juste vous demander de vous lever. Et je vais proclamer cette prière sur vous et cette parole sur vous. Et surtout sur les femmes. C'est pour les hommes aussi, mais surtout pour les femmes. Je ne connais que de fragiles. Si vous êtes fragilisés par la crainte, si vous êtes fragilisés par tous les abus et les paroles dures, si vous êtes fragilisés par un passé difficile, un passé d'accusation, un passé de condamnation, un passé difficile, si vous avez été maltraité par des hommes et vous avez des blessures de tout cela dans votre cœur, si vous avez été maltraité par l'Église, et toutes ces duretés quelquefois qu'on peut accumuler, toutes ces humiliations. Voilà, maintenant on va faire une prière. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Et c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et reçois le Saint-Esprit maintenant. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Et écoutez bien. Écoute bien. Sois sans crainte. Sois libéré de vos blessures. Sois sans crainte de punition, soit sans crainte de violence, soit sans crainte, et votre nom maintenant, soit sans crainte, car tu as trouvé grâce. Ce matin, tu trouves grâce, tu trouves Jésus-Christ, accueille la grâce dans ton cœur, tu trouves la guérison, tu trouves la libération, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.